Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, nous sommes mardi matin, il est 11h. Et ce matin, nous avons la chance de recevoir deux écrivains qui nous viennent de Suisse romande. Alain Frediger, qui publie un livre qui s'appelle « Au téléphone », dont l'éditeur s'appelle « Héros Limite », et Jean Prodon, qui publie « Élargir les seuils » dans la petite bibliothèque de spiritualité de Labor et Fides. Et donc, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc, nous allons commencer par Alain. Et donc, Alain, tu fais un livre sur le téléphone, les différents types d'appareils dont tu as eu l'usage dans ton existence.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un appareil dont l'histoire technologique est relativement ancienne, mais l'accélération des changements techniques, c'est accentué depuis une cinquantaine d'années. On est passé, j'ai encore connu le téléphone à cadran, il y a eu les premiers téléphones portables, cellulaires, on arrive au smartphone. Donc c'est une approche poétique d'une histoire de la technologie, de changement technique. Et évidemment, ce qui intéresse là-dedans, c'est que c'est pas seulement l'aspect économique, mais c'est une approche de l'anthropologie que ça implique, puisque chaque objet technique induit un certain rapport au corps, à l'autre, à l'environnement. Et moi, j'ai voulu utiliser le téléphone pour cette approche-là, à travers une langue qui soit, si possible, à l'échelle, à la mesure, à l'écoute de cet objet téléphonique.
Et donc, tu as quel âge ?
Alors moi, j'ai 46 ans, donc je suis né en 77, ce qui me rend contemporain, justement, de ces grands bouleversements. Ces bouleversements qui ont aussi eu lieu, d'ailleurs, au niveau économique, puisqu'on est passé de monopole d'État, de services publics uniques, à une pléthore d'offres privatisées, la libéralisation, au niveau même de l'Union européenne, avec tout ce que ça implique de changement de réseau et d'économie parallèle.
Je ne sais pas si tu veux en parler, mais en Suisse, moi j'étais au courant sur la Poste, vous avez été privatisé bien avant nous et les prix des choses, certaines choses ont beaucoup bougé. Enfin, vous êtes à l'avant-garde pour ce genre de choses.
Alors en Suisse, comme dans la plupart des pays, les téléphones étaient liés à la Poste et au télégraphe, on avait les PTT et effectivement tout ça a été privatisé. Pas d'un coup, mais ça s'est fait progressivement dans les années 90. Et ce qui rapportait des sous à la Poste déficitaire, c'était le téléphone qui, lui, était bénéficiaire. Et lorsqu'on les a détachés, eh bien, la Poste a continué à être déficitaire, mais le téléphone a continué à s'engraisser. C'est devenu Swisscom qui s'est fait des couilles en or. Et ça a permis de développer, effectivement, une infrastructure exceptionnelle avec un réseau extrêmement développé au niveau mobile. Ce qui fait que lorsque ça a été ouvert à la concurrence, évidemment, les dés étaient pipés et c'était très difficile pour les concurrents de régater au niveau de la qualité du réseau. Mais ils ont pu le faire au niveau des prix parce que les prix étant tellement surfaits par l'opérateur anciennement étatique que c'est là que ça s'est joué jusqu'à ce que, comme toujours, les cartels s'entendent et puis ils fassent des ententes sur les prix et que la concurrence ne dure qu'un temps, comme dans toute histoire capitalistique qui se respecte.
Et donc, alors pour résumer ma lecture du livre, tu assures le lien, ce que tu racontes, c'est toujours un lien. Par exemple, il y a tous les liens familiaux, il y a les liens affectifs, après, il peut y avoir toutes sortes de liens, donc le téléphone assure le lien. Ce que tu racontes, c'est des liens. Tu donnes le nom de ton correspondant, enfin le titre de ton correspondant, du genre « J'appelle ma tante ».
Oui, parce que le lien, c'est la forme essentielle du téléphone. Si on réduit à son os un téléphone, c'est un combiné qui relie un autre combiné. C'est une voix à une oreille, c'est je parle et de l'autre côté, j'écoute. Donc ce lien qui se retrouve même dans sa structure du fil, le téléphone c'est avant tout un fil, il relie des êtres. Et ça m'intéresse aussi parce qu'à travers le téléphone, on a un rapport d'intimité. La voix et l'oreille, c'est un rapport a priori à l'exclusion du reste du monde et des autres êtres humains. Tout ça, évidemment, avant le téléphone portable qui sort de ses cabines et de son intimité. Et puis tout ça traversé d'écoutes clandestines et évidemment d'espionnages divers. Mais enfin, il implique un lien d'une certaine intimité. Donc, dans ce recueil de poèmes, évidemment, on va retrouver des figures comme l'amante, le père, le frère, l'ami. Enfin, ce sont des proches, parce que finalement, les trois quarts du temps, lorsqu'on communique au téléphone, ce sont avec des proches. Évidemment, c'est aussi quelquefois des téléphones professionnels ou des téléphones subis, mais ça crée également des liens d'intimité justement qui sont non désirés. Parce que si le téléphone intempestif, par exemple de colportage commercial, est si désagréable, c'est parce qu'il entre brusquement dans une intimité, alors que c'est un lien marchand qui n'a rien à y faire.
Je suis entièrement d'accord, c'est très très désagréable le démarchage. C'est la seule chose, c'est les seuls coups de téléphone, comme je suis vieux, que je reçois encore. Je suis pas du tout bon, je m'énerve très facilement. Et donc oui, si j'essaye de faire une image, je vois une toile d'araignée assez élégante, assez belle, avec... ce que tu nous donnes, c'est la toile d'araignée, et c'est à nous tout de suite, la profondeur se dessine là-dedans. Par exemple, tu racontes enfant... qu'il y a trois étages où tu habites, qu'il y a une fratrie nombreuse, qu'il y a du monde. Et effectivement, il y a trois combinés. Il y a un combiné par étage et il y a une tentative d'écouter les autres discrètement. Enfin, il y a une histoire de déclic. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne pendant ma communication ou pas, enfin, etc. Donc on a une profondeur derrière le fil.
Oui, parce que le téléphone, c'est donc une structure qui va relier des points, et puis ces points, en général, ils sont deux, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais là, ce que vous évoquez, c'est trois points. Donc il y a le point d'entrée qui est une écoute muette qui peut tout à coup parasiter le réseau. Mais ça dessine justement des lignes qui peuvent former une toile, parce que ce sont l'intensité, ce sont les liens, ce sont la dynamique qui se transmettent à travers ces liens qui constituent finalement le ressort électrique ou énergétique du texte, mais aussi de la vie téléphonique et des conversations qui peuvent s'y passer. Et tout le reste, tout ce qui est hors champ, en quelque sorte, on peut le reconstituer à partir de ces nervures. C'est vraiment le réseau par excellence qui fonctionne par capillarité et par, parfois, plus rarement, par intrusion espionnante ou en tout cas invitation à rejoindre une conversation tierce.
Et donc, ça c'était en amont, disons, c'est l'enfance avec ces trois combinés. Et en aval, on va avoir les utilisations récentes, donc jusqu'à la messagerie érotique.
Oui, encore que l'allusion à la messagerie érotique dans ce texte, elle est déjà archaïque, elle remonte peut-être aux années 90. C'est le moment où ces messageries se mettent en place, c'est au moment de la privatisation, justement, libéralisation des téléphones, où il y a de plus en plus de services qui se mettent en place, y compris ces services de téléphone érotique. Peut-être que ça existe encore aujourd'hui, mais c'est né d'un certain mouvement de développement des lignes commerciales. Et là aussi, il y a ce rapport qui est évidemment mis en jeu de manière très ferme à ce moment-là, mais la voix et l'oreille, détachées du corps, ça produit une érotique particulière, même hors de ce contexte-là. Il y a une sensualité de cette langue, de ces bruits de salive qui entrent directement dans l'oreille, particulièrement à l'époque où les téléphones étaient encore analogiques, ce qui fait que cette transmission presque organique se faisait de manière ferme, et c'est un objet propice au fantasme. Enfin, même Sade disait que l'organe érotique par excellence, c'est l'oreille. Donc le téléphone érotique, il vient se greffer avec un certain succès là-dessus. L'arrivée des téléphones qui se numérisent en baissant la qualité de la voix ont aussi quelque part entamé cette érotique du téléphone.
Donc tu es un connaisseur des voix. On est à la radio et en plus maintenant dans les radios plus puissantes qu'une petite radio libre, on filme les gens. Maintenant les gens, les nouvelles générations ont besoin de voir l'image. Et je suis très frappé quand j'écoute France Musique ou France Culture et puis que je vois la personne que j'ai entendue, comme je n'arrive pas à faire de rapport entre son physique et sa voix.
Oui, alors ça, c'est une expérience que nous sommes nombreux à avoir fait lorsqu'on écoute la radio, parce qu'évidemment, pendant très longtemps, les voix radiophoniques, on imaginait un corps à partir de la voix, et jamais ça ne correspond. Ce qui veut dire que l'espèce de corps caverneux, parce qu'une voix, c'est le corps inversé, donc le corps caverneux qu'on reconstitue à partir de la voix ne correspond pas. Il y a un double décalage. Le premier, c'est quand on s'entend soi-même, on a toujours l'impression d'avoir une voix différente lorsqu'on s'entend à la radio ou sur un enregistrement. Il y a déjà ce décalage. Mais le décalage du corps caverneux qui tout à coup est incarné par tel physique alors qu'on imaginait tout autrement, là encore, on a affaire à une sorte de dissociation. Mais c'est ça qui est intéressant également dans la voix en général. La radio, c'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je travaille aux archives de la radio-télévision suisse. Mais la voix du téléphone, c'est ce rapport au fantomatique. C'est cette désincarnation, réincarnation qui propice au fantasme et au fantôme.
Tu parles de la Turquie dans ton livre, de quelqu'un qui est à Istanbul.
Oui, parce que effectivement, dans les années 90, j'ai fait un voyage en Turquie et le rapport au téléphone, tout à coup, m'a paru assez différent pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, pour une raison bêtement égocentrique, c'est-à-dire que leur manière de dire « allô, allô », c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à mon propre prénom, Alain, et j'avais constamment l'impression qu'on me hélait. Et ça a été la première attention au téléphone. Mais par ailleurs, ensuite, il y a eu toute une série de fonctionnements téléphoniques qui m'ont paru très différents. C'est-à-dire, évidemment, cette habitude qu'on a de passer le téléphone à tous les membres de la famille et avec des intensités de dynamique de voix selon les interlocuteurs. Passe-moi ta sœur. Ah, est-ce que ton père est là ? Donc ça, c'est une... Le téléphone est immédiatement collectif. Ça, c'était une chose. Et puis l'autre chose, c'est le rapprochement. Aujourd'hui, ça paraît extrêmement banal, mais dans les années 90, rentrer d'avion d'Istanbul et puis le soir même recevoir un téléphone de la personne qu'on avait quittée le matin et retrouver cette même voix qu'on avait connue au réveil, il y a tout à coup une espèce d'instantané de rapprochement alors qu'on a retrouvé la distance qui est extrêmement intense. Évidemment, ça, ce sont aussi des choses qui se sont légèrement distanciées à force de globalisation et de rapprochement technique et de mouvements à travers les continents qui sont beaucoup plus fréquents qu'autrefois. Mais c'était ces expériences-là qui marquaient aussi une certaine histoire personnelle du téléphone que j'ai pu traverser.
Tu avais quel âge quand le téléphone portable arrive ?
Alors, le téléphone portable, moi, je le découvre quand je suis en Finlande et j'ai 18 ans. La Finlande, à ce moment-là, avait peut-être 2 ans d'avance sur le reste de l'Europe. C'est aussi pour ça que Nokia a très vite envahi le marché. Tout le monde avait déjà des téléphones portables, alors qu'en Suisse, c'était que quelques rares hommes d'affaires en 95. Et puis, 2 ans après, tout le monde en avait aussi en Suisse. Donc, ça arrive à peu près au moment où j'arrive à l'âge adulte. Donc, c'est un accompagnement qui va avec l'espèce de développement de l'individu qui noue ses rapports, finalement. C'est l'échange de numéros. C'est aussi la création de... Il n'y avait pas encore les fichiers de contact, mais ce sont justement cette espèce de développement d'un fichier de contact.
Et tu as quel âge quand tu achètes ton premier téléphone portable ?
Alors ça, c'est beaucoup plus tardif, parce que justement, pour des raisons diverses, moi j'ai tardé à acheter un téléphone portable, et c'est pas avant l'âge de peut-être 30 ans que j'ai un téléphone portable. Pendant longtemps, je suis resté attaché à ce téléphone fixe qui est lié à un lieu, et j'avais pas envie d'être joignable à tout moment hors de chez moi. Et en plus, à l'époque, il y avait facilement des cabines téléphoniques où les bistrots avaient encore des téléphones. Donc, quand on avait besoin de joindre quelqu'un ou même d'être joint au bistrot, c'était possible. Et petit à petit, on a démantelé cet outillage et ça a forcé de plus en plus de gens à prendre ces téléphones portables.
Et dans ton livre, tu parles assez peu des autres fonctions Quand je suis venu en métro ce matin, par exemple, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient leur portable.
Ça, j'en parle pas, ou très très peu, parce que moi, c'est un parti pris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le rapport à la voix, c'est le rapport à la conversation, c'est le lien. Mmh. Évidemment, le lien peut se faire par messagerie, par messagerie vocale, par ces appels vidéo. Il y a quelques allusions à ce niveau-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une voix qui parle à une autre voix. Et cet appareil-là, qui était le téléphone, c'est aussi quelque part un champ funèbre pour cette fonction du téléphone, parce que moi je vois que de plus en plus les téléphones sont utilisés pour toutes les autres fonctions et plus rarement pour l'appel. J'ai deux enfants qui se téléphonent très rarement entre eux avec leurs amis, tout passe par les messageries. C'est peut-être un usage qui anthropologiquement tend à disparaître, à faire à suivre.
Donc tu dis que tes enfants, ils écrivent en fait.
Ils écrivent ou alors éventuellement ils se font des FaceTime, c'est-à-dire des appels vidéo. Mais la conversation d'oreille à bouche, telle qu'on l'a connue par le téléphone classique, tend à disparaître dans cette génération-là.
Vu la façon dont tu écris, oui, il y a quelque chose du mail, du rapport à l'écriture tel qu'on l'a aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai pas de téléphone, mais j'écris comme tu écris. Dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que je reçois un mail et je réponds tout de suite, en 4 mots, 5 mots, je peux faire un gag, mais j'ai 5 mots, j'ai droit à 5 mots pour répondre tout de suite, donc c'est comme le téléphone.
Oui, alors ça a été des limitations techniques aussi avec l'apparition du SMS qui permettait uniquement tant de mots, ou alors il fallait payer plus cher. Après, moi, j'ai aussi pris cette approche parfois de vers ou de bribes de texte d'une certaine sobriété, peut-être qui se rapproche même de l'arte povera d'une certaine manière, mais c'est aussi pour faire écho et trouver la forme juste à son objet, au téléphone. Le téléphone, encore une fois, c'est deux combinés reliés par un fil. Tout l'appareillage qu'on met autour, toute l'espèce de brillance du smartphone, les paillettes des affiches des différents opérateurs, tout ça c'est de la fioriture. Le téléphone, ça reste deux gobelets de yaourt reliés par une ficelle, ce téléphone dont on jouait étant enfant. Et mes textes essayent justement de trouver une forme qui réponde à cet aspect presque archaïque de la téléphonie.
Et par rapport à tes livres antérieurs qui traitaient d'autres sujets, des fois qui pouvaient être historiques, par exemple compliqués, tout ça, c'est une boîte à outils de vocabulaire qui est très très maîtrisée et qui est un vocabulaire instrumental, quoi, comme le téléphone. Il n'y a aucun mot compliqué, aucun mot référent, où on se pose des questions en profondeur sur la référence, on est toujours dans la communication immédiate.
Oui, parce qu'en fait, le téléphone, il demande cette espèce de clarté. Évidemment, il y a toute une histoire technologique avec des mots qui peuvent être très compliqués. Mais le téléphone, c'est avant tout une conversation même du quotidien et peut-être même de la banalité ou de l'ordinaire, de ce rapport aussi socialement qui n'est pas réservé à une classe particulière. C'est la conversation. C'est presque parfois aussi le café du commerce ou alors ce sont les mots simples que se disent les pauvres gens. C'est tout ça, le téléphone. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller chercher un lexique dans je ne sais quelle philosophie ou quelle linguistique. Mais ça s'est fait, là encore, d'une manière presque organique. C'est, en travaillant cette matière, elle s'impose de cette manière à moi.
Et donc, j'ai appris dans ce livre que ta mère était danoise.
Oui, ma mère est même dano-norvégienne, elle est à moitié danoise, à moitié norvégienne. Et ça, c'est encore une autre histoire du téléphone. C'est-à-dire que ma grand-mère danoise, elle, avait travaillé brièvement pour la compagnie des téléphones de Copenhague dans sa jeunesse, donc dans les années 50, fin 40. Et en partant, elle avait hérité de téléphones anciens, ceux des années 20 qu'on n'utilisait plus, qui se reliaient électriquement et il y avait une manivelle à tourner. Et puis nous, on les avait installés dans la maison pour relier 2 étages. Ça permettait de communiquer pour appeler à l'heure de manger ou que sais-je. Mais évidemment, en tant qu'enfant, on a abusé et usé de cet usage pour faire toutes sortes de jeux. Et c'est là qu'on découvre les possibilités infinies de variation de la voix, de modulation des silences, de surprise de ce qui va surgir dans le combiné. En fait, cette installation toute simple permet des jeux incroyables d'une pièce à l'autre, jouant sur la surprise, l'effroi, l'étonnement. C'est un champ d'expérimentation fantastique pour un enfant.
Et donc, ça, c'est en fait, je le découvre en t'entendant parler maintenant, c'est Requiem pour le téléphone, en fait, ton livre.
Ça pourrait être Requiem. Je ne suis pas non plus persuadé que tout rapport à la voix va disparaître. Il va sans doute se déplacer. Mais j'ai l'impression que cet objet téléphonique, vu le nombre de fonctions qui se sont agrégées maintenant autour de lui, les appels de voix à voix prendront peut-être d'autres formes. La vidéo prend également de plus en plus de place. Et puis, vous avez vu tout à l'heure les changements que ça implique pour la radio filmée. Eh bien, le téléphone filmé, ça change aussi ce qui se dit, ce qui se joue entre deux êtres qui s'appellent lorsqu'ils se voient à travers l'écran ou lorsque c'est seulement la voix et l'oreille qui sont reliées. Donc cet aspect-là a peut-être un requiem, mais d'un autre côté, c'est un objet sonore en constante mutation. On n'a pas fini de découvrir tout ce qui se passe. Ailleurs, je raconte que ces téléphones sont de plus en plus brouillés par l'arrivée d'un environnement sonore intempestif, que ce soit des bruits de trafic automobile, des ambiances de gare, etc. Mais en fait, on peut le lire différemment. On peut aussi le lire que ce qui se joue dans l'appel, maintenant, c'est plus juste la communication entre deux personnes, mais c'est la jonction de deux environnements qui passent à travers ce canal sonore de la voix du téléphone. Et tout l'environnement pénètre dans l'oreille de l'autre. Et c'est ça qui se partage. C'est également l'environnement qui se partage et plus seulement ce qui se dit.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, merci, Aligre FM. Et donc, je pense à un film qui se passe en Floride avec un de ces grands acteurs américains où il fait de la radio dans la cave et c'était tellement beau. Ça devait être une de mes motivations pour avoir fait de la radio. Parce qu'il rentre, c'est De Niro. Et ça s'appelle... Il y a la foire, donc c'est une plage en hiver, c'est d'une tristesse totale. Les attractions, genre un Disneyland fermé, là. Et il rentre, et son frère est un truand, en fait. En vieillissant, on a de la peine avec les noms propres, mais enfin, c'est un titre un peu somptueux, mais c'est juste, il est triste, et il vient, et dès qu'il est devant le micro, il est beau, et tout, il se met à parler, et c'est vachement bien. Et il raconte des histoires, et il improvise des histoires. Il raconte des histoires sur sa famille. Et où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, c'est ça. Les jeunes gens, maintenant, ils ont un truc qui s'appelle Real Life. Et donc, brusquement, tu reçois un signal qui te dit que c'est ton tour de jouer. Et donc, tu prends ton téléphone et tu te filmes. Et tu envoies l'image à tous tes correspondants. Donc, on est 12. Et brusquement, tu fais tic, hop, je me filme. Et je parle pas. Donc, on a un mode, c'est de téléphone, quoi.
C'est un mode de montage par téléphone dans l'instantané.
Montage
collectif.
Tu dois jouer le jeu par rapport à tes amis, tes partenaires, de montrer ton intimité. Si tu es aux toilettes, par exemple, évidemment, c'est ça le truc. Hop, tu te montres aux toilettes, tu vois. Et donc, on a. Du coup, la voix, c'est automatiquement la sublimation par rapport à ça. Là, il y a une trivialité.
Donc, oui.
On est pourchassé en tant que voix, en tant qu'écriture, on est dans un... Imagine le rapport théâtre-cinéma, par exemple, comme le théâtre, ça nous paraît archaïque, comme on a peur d'être puni si quelqu'un nous dit « viens au théâtre », on se dit « ouf, ça devrait être... »
Oui, et puis le visage impose sa face et qui prend toute la place, oui. C'est un visage, deux yeux, une bouche, ça y est, l'attention est captée, et la voix passe effectivement dans la sublimation dès ce moment-là.
Et puis là, ils savent le faire, ils ont compris qu'ils font un environnement, quoi. Ils font de la peinture, en fait. Hein. Ils ne vont pas prendre leur face comme ça, tu vois. Ils montrent bien l'environnement, ce qu'il y a sur la table, si tu es en train de manger, de lire. Enfin, lire, ça n'existe plus non plus, mais...
Oui, alors justement, c'est ce rapport à l'environnement qui, à mon avis, se joue aussi au niveau du sonore et on n'a pas fini de l'explorer et de l'exploiter. Donc ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont s'inventer autour de cette transmission d'environnement sonore.
Et oui, donc sur le téléphone, c'est Rodin qui disait « j'aime pas qu'on me sonne ».
Oui, j'aime pas qu'on me sonne, évidemment. C'est aussi une manière d'être... mais ça, très vite, lorsque les premiers téléphones portables sont arrivés, il y a cet aspect de ne pas être constamment disponible qui a été mis en jeu. Parce qui est constamment disponible ? même avant que le téléphone existe, c'était aussi ces tuyaux acoustiques à travers les immeubles pour aller appeler les bonnes et les domestiques. Donc c'est ça, c'est être aux ordres, au service, être sonné. On est dans ce rapport-là. Et il y a beaucoup, évidemment, d'enjeux avec le monde du travail où il faut ce droit à la déconnexion. Enfin, on n'en sort pas. C'est aussi un fil à la patte, le téléphone.
Et donc, on approche la fin. Qu'est-ce qu'on a manqué d'essentiel dont on n'a pas parlé ?
Eh bien, peut-être un petit moment de lecture. Ça pourrait donner quelques lumières. Il est devenu rare qu'un appel ne soit pas troué. Voix brièvement coupée, bruit extérieur venant parasiter, réseau téléphonique se montrant fragile, perturbation de l'interlocuteur à un bout de la ligne. Excuse-moi, tu peux répéter ? Mais même à répéter, le plus souvent il faut recomposer l'appel à partir de ses chutes. Il n'est presque jamais robe sans couture. Au contraire, demande à colmater, à broder, exige de chacun une énergie de tisserand et de soudeur pour maintenir uni ce qui est écartelé en tous sens, se disloque en sonore privé de sens, en bruit. Il est devenu rare qu'un appel ne soit pas troué.
Écoute, merci. On va arrêter là, si tu veux bien.
Ça Mais
va.
Très bien, je
merci.
Te remercie.
On va écouter un petit morceau de musique.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Donc nous sommes sur Aligre FM 93.1. Nous avons quitté Alain Frediger et son livre au téléphone et maintenant nous allons parler du livre de Jean Prodon, Élargir les seuils, publié chez Labor et Fides. Bonjour Jean.
Bonjour.
Et je sais pas, tu veux nous faire un topo d'ensemble? Tu veux que je fasse une présentation de ce que j'ai retenu du livre?
D'abord, j'aimerais contribuer à une poursuite de l'ouvrage d'Alain. Il m'a semblé que tu n'as pas parlé dans ton ouvrage de quelque chose qui aurait pu apparaître dans...
Parle dans le micro.
Qui aurait pu apparaître dans donc, Élargir les seuils. C'est un enfant qui tient un petit téléphone en bakélite. Il doit avoir 2 ans et il tient le combiné sur le corps. Donc il a interrompu sa communication où il est sur le point de la reprendre et il regarde l'objectif du photographe. Cette photographie, à un moment donné, elle aurait pu figurer dans ce livre. Et on peut dire que Élargir les seuils, c'est une réponse 60 ans après à la demande que faisait cet enfant de 3 ans et qui demandait, au fond, de façon impensable, que ce qu'il s'était passé depuis cette troisième année. Et donc, élargir les seuils, d'une certaine manière, c'est une réponse. Je réponds à cet enfant qui ne sait pas ce qui va lui arriver, que tout s'est quand même relativement bien passé. Alors, je crois que ça résume un peu ce texte qui revient sur et qui lui raconte 4 souvenirs qui sont des souvenirs assez anciens, puisque le dernier, j'avais 25 ans, et le premier, j'avais 2 ou 3 ans, précisément l'âge de cet enfant qui est au téléphone. Et je reviens sur ces quatre épisodes, parce qu'il me semble que les 4, morphologiquement apparentés, rappellent une même expérience, celle d'avoir été tout au long de cette vie interrompu, ou je me suis interrompu pour m'asseoir et considérer les choses qui m'entouraient. Alors que le reste du temps, j'étais actif, je marchais, j'allais chercher, je découvrais, j'essayais de comprendre.
Et donc, pour résumer rapidement, ce que moi j'ai perçu, c'est enfin, ce que les événements qui scandent le livre, c'est une espèce de complicité cosmique avec la nature jusqu'avant l'école primaire, enfin une adéquation totale au réel. Ensuite, l'école primaire, c'est-à-dire la loi des autres, une difficulté à entrer dans un cadre qui est fixé. Ensuite, l'adolescence avec les insoumis, voilà, et les dociles.
Voilà, c'est-à-dire qu'au début, au fond, on est un. J'ai eu l'impression, d'ailleurs c'est pour ces raisons-là qu'il m'est très difficile de m'en souvenir, d'avoir été un, c'est-à-dire faire corps avec ce qui m'entourait, une identité indécise pour moi-même, mais sans problème, sans difficulté quelconque, et que un jour, je suis devenu deux. Parfois, on pourrait appeler ça la conscience, et je pense que le langage a joué un rôle considérable, et les groupes qui m'ont entouré. Cet événement qui est incontournable, j'ai dû le prendre en compte. Et je l'ai pris en compte tout au long de ma vie. Mais cette division qui était nécessaire, ne serait-ce que pour vivre, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas agir comme il le fait, ne pourrait pas vivre. Donc cette nécessité d'être deux, de réfléchir à ce qu'il fait, de penser à des stratégies pour survivre, font partie de sa vie. Et donc, ceci étant dit, il s'avère qu'il y a quelque chose qui manque, cette espèce de sentiment de faire partie du monde dans lequel on a été jeté, revient régulièrement et m'intéresse encore aujourd'hui.
Et donc, il y a un moment où, si j'ai bien compris la métaphore, tu es enfermé dans un groupe religieux et tu vas apercevoir un bout de ciel dans lequel tu vas t'échapper. Oui. C'est au premier degré. Et ce groupe s'appelle les Darbistes. Alors, ici, on est dans un pays catholique avec un fort stigmate sur la laïcité. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce groupe et pourquoi il est stigmatisé ? Enfin, tu dis qu'il était mal vu, je crois que c'est l'expression que tu utilises. Plutôt mal vu à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, en fait, ce groupe est né première moitié du 19e siècle à l'instigation de plusieurs personnes, et un homme a eu un rôle plus important que les autres, c'est John Nelson Darby. Et cet homme, première génération d'après la Révolution, une génération qui n'a plus droit, qui a un dieu fragile, enfin peu présent, et cette première génération s'essaye à inventer de nouvelles façons de vivre. Et dans le domaine religieux, Darby a de cela. Il voudrait fonder quelque chose qui ne serait pas une église, parce que toute église est déchue, elle a montré ses limites tout au long de l'histoire. Il aimerait, au fond, recommencer à zéro, ou revenir au temps des apôtres, vivre dans une espèce de nudité en compagnie du Saint-Esprit. Alors, eh bien, cette histoire-là n'a pas été simple à mener. Et en quelque sorte, il a échoué, parce que régulièrement, au fond, des disputes avaient lieu sur la nature du Saint-Esprit et toutes sortes d'autres objets théologiques. Mais ce groupe a quand même essaimé, donc c'est un Irlandais qui a migré sur le continent et qui a eu belle fortune en Suisse précisément, autour de Genève et de Lausanne. Et je suis un enfant de cette histoire-là. J'y suis allé donc au culte, dans ce qu'on appelait un local, jusqu'à, je dirais, 14-15 ans. Je ne me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai quitté les lieux. Je ne m'y suis jamais trouvé enfermé, mais au fond, je crois que j'ai failli comme tous ceux qui sont rentrés. Et ce que je raconte dans ce chapitre, c'est cette expérience, au fond, d'avoir été dans ce local, à observer, regarder, écouter ces gens très organisés, tournés vers la table de communion, qui tournaient le dos précisément au monde. Il faut rappeler que c'est un mouvement religieux qui parie sur une vie après la mort et que la vie présente n'a aucun intérêt. Et donc, je me trouvais donc assis, sans très bien comprendre ce qui se passait, au milieu de ces gens qui se tournaient vers la table de communion. Et au fond, ce temps, cette culte d'une heure et demie, très long, était d'une certaine manière racheté, et ma vie tout à coup retrouvée lorsque le concierge de l'établissement, un second couteau de l'Assemblée des Darbistes, se levait, tournait le dos à l'Assemblée elle-même penchée sur la table de communion, grimaçante de foi et de douleur, et se dirigeait vers les fenêtres, se saisissait d'une manivelle qu'il tournait, et à ce moment-là, on entendait le bruit du dehors. Et au fond, moi, là au milieu de cette salle, j'ai été conduit, non pas par le bon berger, mais par le concierge, en direction du dehors, et m'a aidé d'une certaine manière à quitter la communauté. Or, ce n'est pas la parabole du bon berger, mais à quelque part, c'est cette parabole inversée. Parfois, il vaut mieux quitter les groupes d'appartenance. Et je crois aujourd'hui, rétrospectivement, que ce concierge m'a aidé non pas à revenir au troupeau, mais à le quitter. Et donc, on voit bien là, naturellement, que je n'ai pas tout à fait quitté le monde d'où je proviens, c'est le monde protestant. Ces paraboles sont toujours tout à fait éloquentes. Peut-être qu'il s'agit aujourd'hui de les réinterpréter, de les redire sur un mode différent. Les menaces sont différentes de celles d'autrefois.
Et donc, dans ces confrontations, là, j'étais au niveau du lycée, ce qu'on appelle le lycée ici, où il y avait les soumis et les indociles. Là.
Oui.
Et ensuite, tu es brusquement confronté avec la philosophie, Hegel, l'univers conceptuel, et là, tu sens vivre une crise existentielle intense dans ton rapport au concept.
Oui. Alors, donc, ce que je disais au début, à propos de cette duplicité dans laquelle on est, c'est-à-dire, enfin, le fait d'être deux, d'être à la fois celui qui reste immobile et s'extasie, à la fois très proche du végétal, et de celui qui marche, qui va à la découverte du monde, que si on privilégie l'un ou l'autre, les choses ne vont pas de la même manière. Et je crois que j'ai été, comme tant d'autres, j'ai privilégié le chemin, la route, de prendre le chemin, d'avancer, de progresser, de comprendre par tous les moyens, et notamment par le livre. Et je crois que j'ai été victime du livre.
Ah donc, ce que tu appelles Hegel, c'est le livre en général.
Alors, il se trouve que l'événement, l'effondrement que j'ai vécu, ou que celui que j'ai été a vécu, cet effondrement a lieu à l'instant même où je lis Hegel, la phénoménologie de l'esprit, la première section. Je n'ai jamais quitté, je n'ai jamais lu autre chose que ça, j'ai abandonné ensuite. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était, ce Hegel, cette lecture-là, était comme d'autres lectures. C'est simplement une série de coïncidences qui font que c'était Hegel. Mais d'une certaine manière, c'était très heureux. C'était une heureuse coïncidence. Parce que je crois que de ce point de vue-là, Hegel a été, pour moi, je crois qu'il y a des Hegeliens, je crois que ça existe encore, mais pour moi, a été quelque chose qui j'ai été plus tard amené à combattre. Enfin, mon hegelianisme au profit d'autres philosophes qui m'ont aidé d'une certaine manière à réintégrer, je dirais, le vivant, et laisser au concept une puissance moindre.
Donc, il y a ce sentiment de non-appartenance, donc c'est très frappant. Donc, tu décris deux types de groupes de lycéens, deux comportements, mais le tien est celui d'un ethnologue, disons, qui décrit les autres. Donc, il y a ce sentiment de non-appartenance. Et en même temps, donc l'enjeu, ça serait d'appartenir au monde plutôt que.
Mais,
tu as ce sentiment de recul.
Qu'on soit deux me semble inévitable. Et donc ces deux groupes de camarades dont je parle dans le troisième chapitre, ont des rapports à la langue justement très différents. Et je rencontre encore des gens comme cela. Il y a ceux qui considèrent la langue comme le moyen de quitter le plancher des vaches, poésie, liberté, invention. Et puis les autres qui sont très dociles et qui ont un rapport très policier à la langue. Enfin, les uns et les autres ratent, je dirais, l'autre. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut faire l'un sans l'autre. Et donc, je me retrouve au milieu. Ce milieu qui, d'une certaine manière, n'est pas si mauvais que ça. Il a été longtemps disqualifié. Hein. Ne pas être du côté des indociles ou ne pas être du côté des dociles a été stigmatisé. Or, j'ai l'impression qu'il y a possibilité de penser à un milieu qui soit un milieu délicat, fragile, un seuil précisément, sur lequel il convient peut-être plus que jamais d'habiter, d'y demeurer le plus longtemps possible. Judith Schlanger écrit quelque part que vivre au milieu est la chose la plus difficile. Alors, ce n'est pas pour valoriser cette position-là, mais je crois qu'effectivement, le milieu, même le juste milieu, n'est pas une idée à chasser trop vite.
Donc moi, j'avais une idée de ton livre avant de le lire. Je voyais Hölderlin, Novalis, je voyais Philippe Jacotet et je voyais Jean-Jacques Rousseau. Donc en fait, je te voyais marchant dans la montagne ou peu importe, mais marchant sur le bord, sur un chemin, tu vois. Et là, et j'ai retrouvé, il y a trois termes où j'ai dû regarder dans le dictionnaire, enfin maintenant on regarde sur l'ordinateur. Au début, ça me rappelait que la première fois que j'ai essayé de lire Jacotet, il y avait deux mots dans le premier paragraphe que je ne connaissais pas. C'était l'adret et l'ubac, qui pour vous sont familiers, mais pour moi, c'est des mots que je ne connaissais pas. Donc je me souviens d'avoir consulté un petit Robert pour savoir ce que c'était. Et donc ce n'est pas ça, tu n'es pas un personnage romantique qui marche au bord de la route avec un bâton qui se déplace, qui communique avec la nature. C'est faux cette vision.
Je marche beaucoup, mais ça veut... Non, enfin, je...
Tu es dans le monde avec les autres hommes, avec, oui. Tu as été 30 ans instituteur, tu es intégré.
Oui, tout à fait. Non, je crois que ce n'est pas le...
C'est pas un personnage romantique.
Non, du tout.
Donc, est-ce qu'on a abordé tous les cinq points que tu développes? C'est donc ce sentiment...
Ce dont on n'a pas parlé, c'est, je crois, du premier chapitre... C'est ce premier chapitre qui raconte là aussi un seuil, un point de bascule, ce moment où l'enfant que j'ai été, mais que nous avons tous été, à un moment donné, décide de passer par-dessus la barrière de son lit. Au fond, pendant longtemps, on accepte d'être pris dans les bras de sa mère, posé dans le lit... pour la nuit, ramasser aussi le lendemain matin, on l'attend, et au fond, les choses pourraient continuer comme ça. Hein, une espèce d'assistance généralisée. Et un jour, pour des raisons diverses, en ce qui concerne le moment, on décide de franchir cette barrière. Et donc, de changer d'espace. Dès ce jour-là, on est amené à courir le monde. Et notre vie n'aura été que ce moment qui commence au saut du lit, cette décision de passer par-dessus la barrière, de basculer sur ce point tranchant, et de continuer à marcher. Donc, parce que finalement, le marcheur, c'est celui-ci. Le marcheur, c'est celui qui décide d'aller voir le monde. D'une certaine manière, le travail qui nous occupe quotidiennement fait partie de cette longue marche. Mais cette décision de partir n'annule pas ce qui s'est passé auparavant. D'où on retrouve, tout au long du texte, mais de ma vie et peut-être de notre vie, ces moments d'arrêt qui fait qu'on préfère, qu'il est nécessaire de nous asseoir ou de nous coucher et de ne rien faire. Et finalement, j'ai eu l'impression... On pourrait peut-être même résumer ce texte sur la position du corps. Il y a une position debout active et il y a une position couchée ou assise. On n'a pas beaucoup d'autres choix. C'était étrange que nous soyons condamnés ou bien à marcher ou bien à être arrêtés. On pourrait imaginer toutes sortes d'autres choses. Ce sont les deux positions et donc, d'une certaine manière, il faut faire avec. Et ce livre raconte comment j'ai essayé de faire avec, non pas considérer ces deux moments comme des cassures, comme des ruptures définitives, mais comme l'occasion même d'aller sur deux pieds, de danser plutôt que de boiter sur cette faille.
Mais donc... Allègre FM 93.1.
Oui, merci. Et donc, tu t'appuies sur le corps, en fait, plutôt que sur l'esprit.
Alors, oui. Très jolie remarque. Donc, ce livre a été publié dans une bibliothèque, dans une collection qui s'appelle Petite Bibliothèque de Spiritualité. Dans ce texte, le terme même d'esprit y apparaît peu. Ni spiritualité, ni esprit. Le corps est central. Et même, je dirais, la matière. Et si je dis la matière, c'est parce que j'ai l'impression que cette forte critique du matérialisme qu'on a tenu depuis un certain nombre de décennies est tout à fait erronée. C'est que le matérialisme est un idéalisme. On est de loin encore pas matérialiste. Et donc, d'une certaine manière, je crois que ce livre essaye de faire... De donner la place à un matérialisme généralisé. Et l'esprit n'étant, alors s'il faut lui laisser une place, le jeu de cette double position, assis, assis couché, marchant. L'esprit n'est là que pour pousser l'esprit, pousser le corps à s'arrêter ou pousser le corps à continuer. Mais il a pas, son rôle ne serait pas tellement différent. Il y a un texte de Michel Serres dans les cinq sens, je crois que c'est dans les cinq sens, où il raconte que l'âme, enfin, la position de l'âme, l'âme se trouve exactement dans le, lorsque le corps, dans le corps, lorsque le corps est sur le ballon, lorsqu'il passe, il parle d'un sauteur en hauteur, mais c'est aussi cet enfant qui passe la barrière. L'âme, au fond, serait ce corps de l'enfant qui décide d'aller dans le monde, sans perdre de vue le lieu dont il provient.
Mais tu ouvres de vastes horizons. Alain a écrit un livre sur un sauteur à ski pour lequel il a obtenu un prix. Mais donc, il faut faire attention sur ce matérialisme. Ce n'est pas un matérialisme hédoniste.
Non.
Non, c'est parce que ça aussi l'opposition spiritualité matière. On a toujours une vision triviale du côté matérialiste, mais on parle pas du tout de ça. C'est sur est-ce qu'on a une âme ou pas en fait. Et si on a une, comment elle se manifeste? Qu'est-ce que c'est le rapport au monde? C'est très ambitieux tout ça. Mais il y a cette figure du berger au début, donc il y a une certaine simplicité qui est. Bon, c'est pour ça que je faisais allusion à Rousseau, bien sûr. C'est une simplicité dans le rapport au monde. Il y a... Bon, bref, tu as un projet très ambitieux. Qu'est-ce que tu en penses de tes ambitions métaphysiques?
Alors, je ne crois pas que c'est... Enfin, c'est bricolé, d'une certaine manière. C'est bricolé entre debout, assis, couché, pour être en mesure de vivre bien, de vivre aussi, je dirais justement, c'est-à-dire juste, pas enquiquiner le monde, pas l'encombrer, discrètement, éviter les batailles. Enfin, il y a autour de ce projet-là, mais je crois que c'est le terme, cette aventure-là, il y a une volonté de vivre et de donner une réponse en acte qui par exemple me permettrait de mourir, parce que mourir n'est pas si simple que ça.
Et mourir réconcilié.
Mourir réconcilié avec les autres, avec soi-même, enfin accepter cette donne. Là aussi, alors du point de vue matérialiste, accepter cette disparition, notre disparition, accepter aussi notre naissance, notre surgissement. Alors, c'est à la fois ambitieux parce que j'ai l'impression qu'on en a parlé depuis longtemps de tout cela, mais je crois qu'il est notre devoir d'en parler encore.
Il y a quelque chose qui est à l'extérieur, qui est extrêmement menaçant. Il y a une espèce de désespoir apocalyptique constamment, quoi, qui envahit tout, il va y avoir des incendies sans fin, etc. Et on nous parle, je sais pas, il y avait une de journaux qui disait 48% des jeunes n'avaient plus de rapports sexuels. Enfin, on vit vraiment une espèce d'apocalypse bauchienne. Et tous les deux, vous avez l'air quand même assez serein, là, c'est l'air de la Suisse.
Non, mais je suis très inquiet sur la situation.
Ah oui.
Je pense que les choses sont très très délicates. Mais la question, l'agitation ne résout pas naturellement le problème. Et puis j'imagine, je fais parfois cette expérience de pensée, supposons que les problèmes soient résolus, et que feraient nos voisins, que feraient tous les gens qui nous entourent si au fond il n'y avait plus de soucis, si les choses s'étaient réglées? Est-ce que vivre vaudrait encore la peine? Est-ce que les gens seraient d'accord? Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, j'aimerais expérimenter une vie qui aurait pas de soucis.
Mais sur ce rapport aux voisins, justement, il y a quelque chose que je me posais comme question, parce qu'il me semble que dans ton livre, d'une certaine manière, tu fais l'expérience du langage qui éloigne des choses et de la nature dans un premier mouvement, et puis qui t'y ramène dans un deuxième mouvement. Mais qu'en est-il du langage par rapport au lien avec les autres ? Est-ce que c'est le même mouvement ? Parce qu'il me semble que tu en parles très peu des autres hommes. Or, le langage, évidemment, a une fonction, un nombre de fonctions essentielles dans le rapport aux autres. Et je me posais la question, est-ce que c'est aussi ce double mouvement que tu éprouves à ce moment-là ?
J'évoque le langage avec les autres sur cette partie autour de mon travail qui était dans celui d'enseignant, où je me suis trouvé aux prises avec le langage, et donc dans l'enseignement avec les autres, avec des enfants qui étaient tenus de l'apprendre. J'ai fait mon travail au mieux. Mais ce que je raconte dans le livre, c'est ces moments où précisément quelque chose lâche et ramène le collectif, en l'occurrence les élèves, a cette espèce d'apparition dans un silence ébloui, mais pour des raisons diverses. Ça pourrait être n'importe quoi, une cloche, un coq, un camion de pompiers, qui interrompt le mouvement et qui laisse sur place ce collectif vivant.
Épiphanie.
Mais ça ne veut pas dire que ces épiphanies ne surgissent, elles apparaissent dans un contexte. Elles sont pas isolées du monde dans lequel nous vivons.
Mais donc l'épiphanie justifie la vie. Si tu as une épiphanie, ta vie est justifiée. C'est comme si tu faisais de la lévitation.
Oui. C'est la question de la prolongation. Parce qu'on pourrait prendre au plus court. On pourrait, comme certaines espèces animales, les éphémères, procréer et mourir. On a décidé, ou on a l'histoire de l'homme fait qu'on prolonge. Après avoir fait notre travail, on prolonge, on a tendance à vouloir prolonger très très longtemps, peut-être même parfois trop trop longtemps. Et donc, c'est épiphanie, oui, mais pas d'épiphanie sans, j'allais dire marche forcée, sans travail pour conserver l'existence. On ne conserve pas l'existence couchée dans un lit.
Et donc, si par exemple je marche, je marche pour m'oublier, mais dans le vague espoir d'avoir une épiphanie. Mais je ne peux pas la vouloir, cette épiphanie.
Non, alors non.
Voilà,
mais, non.
Et voilà ce que tu as écrit.
Non. Et on peut ensuite, par des ruses tout à fait inquiétante, on peut se retrouver en ayant tout oublié de tout cela et continuer à marcher dans le vide. Et j'ai l'impression parfois que nos collectifs avancent aveuglément vers nul sait quoi.
Ben, ça sera le mot de la fin. Écoutez, merci à vous deux d'être venus, c'est formidable. Revenez quand vous voulez, la maison est ouverte. Enfin, j'espère qu'elle va perdurer à l'infini. Nous passons l'antenne à Cause Commune et je remercie Enrico Mastro Giovanni, Yvan Le Borgne et Amazir Amadein Guest. Merci à vous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.